Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Nous sommes vendredi, cela ne vous aura pas échappé. Dernier rendez-vous de la semaine pour Appel sur l'actualité avec à suivre dans une demi-heure. La Libre Antenne, c'est l'occasion de revenir sur les principaux événements de la semaine dans l'actualité en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Vous pouvez également nous interpeller, nous sensibiliser sur des événements qui vous ont marqué, des sujets qui n'ont pas été abordés dans la presse, des sujets qui n'ont pas été traités sur notre antenne ou alors pas suffisamment à votre goût. C'est vous qui décidez du contenu de l'émission pour participer. Vous nous rejoignez 09 693 693 70 09 693 693 693 70, si vous nous écoutez en France. Mais d'abord et comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Beaucoup de questions ce matin sur l'élection demain du président de l'UMP, la formation politique de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et Véronique Rigolet du service politique de RFI est avec moi pour vous apporter les éclairages que vous souhaitez. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Et on commence par une première série de questions avec Idrissa qui est en ligne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Idrissa.
Bonjour Zéphirin Kouadio, bonjour Véronique Rigolet et bonjour à Estelle Motion depuis Luanda en Angola.
Merci, vous êtes à l'antenne, on écoute vos questions.
Okay. J'ai des questions concernant la politique en France, plus précisément la division qui règne au sein de l'UMP. Mmh. Alors, je voulais savoir... quelles sont les stratégies proposées par les candidats aux membres du parti pour surmonter la division à l'horizon 2017 lors de la présidentielle? Et ma deuxième question concerne le retour de Nicolas Sarkozy en politique après plusieurs mois d'absence. Je voulais savoir comment ce retour est-il aperçu au sein de l'UMP?
Très bien, merci beaucoup Idrissa pour toutes ces questions. Alors trois candidats, hein, Hervé Mariton, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy donné grand favori de cette élection à la présidence de l'UMP demain. Un parti divisé, observe Idrissa. Véronique, comment surmonter ces divisions, ces chicayas, comme pourrait dire Alain Juppé, le maire de Bordeaux?
Écoutez, véritablement, il n'y a pas de stratégie pour surmonter les divisions. J'irais même que après cette élection demain du président de l'UMP, ces divisions, elles vont sans doute même s'amplifier, alors que commencera une nouvelle bataille, qui sera cette fois la bataille des primaires pour 2016, et l'affrontement cette fois risque d'être d'autant plus rude que l'enjeu sera majeur, hein, puisqu'il s'agit de la conquête de l'Élysée, et vu les difficultés de la gauche, eh bien certains politologues disent aujourd'hui que le futur candidat de la primaire, on parle bien sûr de la primaire 2016, qui ouvrira la porte pour la bataille de l'Élysée, eh bien, sera sans doute le futur président de la République française. Puisque si la gauche est éliminée du second tour, c'est un cas aujourd'hui qui est considéré, eh bien, le candidat de la droite devra affronter le Front National et aura donc les plus grandes chances de l'emporter devant un tel enjeu. Eh bien, on voit et on comprendra l'âpreté de la bataille qui va commencer à partir de demain soir, dès cette élection à la présidence de l'UMP. Toutefois, bien sûr, gare à ne pas aller trop loin dans la castagne. Les militants, on le sait, détestent les chicayas, le combat des chefs qui pourrait conduire, eh bien, tous les prétendants à s'abîmer, à s'auto-éliminer, comme cela a été le cas en 2012 dans le duel très dur entre Jean-François Copé et François Fillon. Tous deux aujourd'hui, eh bien, sont un peu en marge de la bataille politique.
Alors, le retour de l'ancien président, c'était l'autre point que souhaitait aborder Idrissa. Le retour de l'ancien président sur la scène politique que certains observateurs ont jugé raté. Comment ce retour est-il perçu au sein de sa famille politique?
Il a été bien accueilli, en tout cas par la grande majorité des militants de l'UMP, hein, il faut le dire, la base militante est restée très sarkozyste. Sarkozy, eh bien, on peut le dire, hein, puisque c'est comme ça que c'est vécu sur le terrain, c'est véritablement pour cette base-là, c'est vrai, c'est leur idole, hein. D'ailleurs, ils étaient en peine de pas le voir pendant 2 ans, et ça a été une grande fête, véritablement, hein. Ça s'est passé à Lambersart en septembre dernier, quand Nicolas Sarkozy a effectué, voilà, son retour sur la scène politique et sur la scène militante. Alors, on le comprendra, il y a cet enthousiasme des militants qui n'est pas forcément partagé par les ténors de l'UMP. Ces ténors, on vient de le dire, hein, candidat pour la primaire de 2016, Pécresse, il y a Xavier Bertrand, il y a François Fillon, il y a Alain Juppé. Ce sont ses adversaires, ses futurs concurrents pour la présidentielle. Et comme on l'a vu à Bordeaux la semaine passée, eh bien la guerre s'annonce rude entre Sarkozy et Juppé notamment. Mmh. Sarkozy, chouchou, on l'a dit, des militants, et Juppé, eh bien chouchou des Français.
Des Français en général. Voilà, Idrissa, quelques éléments de réponse qui, je l'espère, vous éclairent davantage. On va repasser par le standard 09 693 693 70. Au standard, c'est François qui est en ligne avec d'autres questions sur le même thème. François, bonjour. Allô, François ?
Allô ?
Bonjour, vous êtes à l'antenne. On écoute vos questions sur le thème que vous avez retenu.
Oui, bonjour, je suis François Sébois, j'habite à Arcueil. Je voulais poser deux questions concernant donc la politique, disons la qualité politique concernant l'UMP.
Oui.
Alors, je voudrais savoir, parce que Monsieur Sarkozy, dans sa campagne, a dit qu'il comptait donc changer le nom du parti. Donc, je voudrais dans un premier temps savoir quel serait le nom qu'il proposerait, bien sûr, à partir de l'UMP, et le programme qu'il compte donner à ce nouveau parti. Mmh. Et puis, deuxième question serait de savoir aussi la ligne politique qu'il va désormais adopter, parce que on sait que M. Sarkozy a été président. Alors, est-ce que, si jamais il arrivait donc à prendre la présidence de l'UMP, est-ce que il aurait une ligne politique différente de celle que le parti avait lorsque il était encore président.
Très bien.
Je profite aussi de votre antenne pour dire bonjour à tous les ressortissants des Ikisso qui habitent la France et qui habitent l'Europe.
Merci. Le message est passé, François. Ikisso, c'est une localité de la Côte d'Ivoire. Alors, Véronique, pour revenir au sujet du jour, quels sont les grands thèmes qu'il faut retenir de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP? Et en gros, quel est son projet pour cette formation politique?
Alors, pour le programme, on verra dans les prochains mois, bien sûr, hein, ce programme n'est pas affiné. Pour le moment, il y avait un programme de campagne pour gagner ce poste, pour gagner cette présidence de l'UMP.
Oui.
Pour le reste, qu'on en sait, eh bien, c'est que c'est tout simple. Il faut tout changer, a dit Nicolas Sarkozy.
Y compris le nom.
Ouais. Refonder complètement l'UMP, vous l'avez dit, il faut aussi changer le nom. Alors, on dit que peut-être ça pourrait s'appeler le rassemblement, il y a aussi cette notion de république, bref, on verra ce qu'il fera de tout ça, mais certainement l'UMP tel qu'on l'a connu aujourd'hui avec ce nom-là va disparaître, on rebâtit le parti pour en faire, selon les choix de Nicolas Sarkozy, le parti du 21e siècle, le grand parti de la droite et du centre, qui permettrait bien sûr à Nicolas Sarkozy eh bien de vaincre l'EPS pour les prochaines élections présidentielles, mais également 2017, et surtout le Front National, dont on a expliqué hein, qui pourrait être présent, lui, au second tour de la présidentielle, ce n'est pas exclu. Bref, Nicolas Sarkozy va faire, dans les prochains mois, là, ce sera avant le printemps prochain, un parti à sa main, un parti qui sera également une machine de guerre, à son profit, bien sûr, et à nouveau, pour gagner la présidentielle.
Très bien, merci beaucoup Véronique. Vous restez avec nous, on va repasser par le standard, 33 9 693 693 70 10, direction Lagos au Nigeria, avec encore deux dernières questions sur ce thème. C'est Emmanuel qui est en ligne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tous les Nigériens francophones.
Merci, vous êtes à l'antenne, on écoute vos questions, Emmanuel.
Oui, je voulais savoir un peu quels avantages donne la présidence de l'UMP à un candidat au primaire de la présidentielle en France. Mm-hmm. Et ma deuxième question, je veux parler de Monsieur Sarkozy, puisqu'il a donné gagnant de cette élection. Quels sont les atouts et les faiblesses qu'il a par rapport aux autres candidats en lice?
Alors voilà, merci beaucoup Emmanuel pour ces questions. Vous avez commencé à esquisser une réponse à la première question d'Emmanuel, Véronique. La présidence de l'UMP, rampe de lancement pour l'élection présidentielle de 2017, ça
voilà,
paraît évident.
Être patron du parti, c'est bien sûr un énorme avantage. Hein, mm-hmm. C'est vraiment le tremplin hein, que souhaite d'ailleurs Nicolas Sarkozy vers la présidentielle, car celui qui a la main mise sur le parti, qui contrôle la pareil, eh bien, contrôle des tas de choses. Il contrôle notamment les investitures pour les prochaines élections. Ça veut dire qu'un grand nombre d'élus lui sera redevable. Ça lui fait des troupes. Il contrôle également le calendrier pour les futurs changements qui vont intervenir. On l'a dit dans le parti dans les prochains mois. D'où d'ailleurs l'inquiétude des jupéistes qui soupçonnent eh bien Sarkozy de vouloir annuler les primaires de 2016. Voilà, ça va être l'objet du contentieux peut-être, en tout cas du débat des prochains mois.
Est-ce que c'est réel ou pas?
Ah bah ça, on n'en sait rien, on le dira.
On peut imaginer que Nicolas Sarkozy transforme les règles du jeu.
Il peut, à la tête du parti, et vu qu'il veut tout changer dans l'absolu, il pourrait modifier les règles du parti. Voilà, c'est pas sûr, c'est pas fait pour le moment. Voilà, ce sont les inquiétudes des jupéistes qui vont faire entendre leur voix pour faire en sorte, eh bien, que ces primaires aient bel et bien lieu suivant des modalités, voilà, dont on aura l'occasion de discuter d'ici à 2016. En dirigeant le parti, parce qu'il faut revenir là-dessus, Sarkozy deviendra sans doute demain. Hein, c'est très probable, bien le chef de l'opposition, hein, ça veut dire le principal opposant à François Hollande, et il pourra notamment se targuer des futurs bons résultats espérés des prochaines élections locales. Il y a les départementales en mars, il y a les régionales en novembre prochain. Ça pourrait sans doute se traduire par une nouvelle déroute ou une nouvelle défaite socialiste. Et bien c'est Nicolas Sarkozy, nouveau patron de la droite, qui pourra se targuer de ces bons résultats. Enfin, il y a une règle qui est assez claire, en tout cas dans l'histoire de la droite et sous la 5e République, c'est que la plupart de ceux qui ont accédé à l'Élysée, tenaient le parti, étaient patrons du parti. Donc c'est un avantage conséquent dans cette bataille qui s'ouvre à droite.
Et précisément, quels sont les atouts de Nicolas Sarkozy en quelques mots? Les atouts et ses handicaps, bien sûr.
Le principal atout, on vient de le dire, c'est qu'il va contrôler le parti et ça sera donc peut-être décisif pour 2017. Le second atout, c'est qu'il a le soutien, et on l'a dit aussi, il a le soutien, le cœur des militants UMP, c'est une énorme base. Puis le principal handicap, c'est qu'il n'est plus le candidat naturel de son parti. Maintenant, c'est Alain Juppé qui fait figure de chouchou des Français, mais qui a également la popularité auprès des sympathisants de droite. Oui. Il est par ailleurs, Alain Juppé, moins clivant que Nicolas Sarkozy. Ça va donc être un terrible mano à mano, un terrible bras de fer pour 2017, sans doute entre les deux hommes.
Merci infiniment, Véronique. Voici Emmanuel, ce qu'on pouvait vous apporter comme éclairage. Merci de nous écouter à Lagos au Nigeria. Bonne journée à vous, Véronique Rigolet du service politique. Merci pour ce décryptage et bonne journée également à vous. Nous repassons par le Standard. Autre sujet qui a retenu votre attention ce matin, le sommet de la francophonie à Dakar ce week-end. Sommet suivi évidemment très largement par RFI, couvert très largement par RFI. Avec à suivre tout de suite des questions de Youssouf en ligne à Dakar justement. Bonjour Youssouf.
Bonjour Zéphirane et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, nous écoutons vos questions.
Notre pays va accueillir dans moins de 24 heures le sommet de la francophonie. Et dans ce contexte, j'aimerais savoir d'abord les objectifs de la francophonie aujourd'hui.
Ensuite.
Et enfin, quel est le coût pour les pays africains?
Très bien, merci beaucoup. C'est Pierre Pinto, justement l'un de nos envoyés spéciaux sur place à Dakar, qui va vous répondre. Bonjour Pierre.
Bonjour Zéphirin, bonjour Youssouf.
Alors ce week-end, je le rappelle, Pierre, les chefs d'État et de gouvernement des 57 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie se retrouvent donc à Dakar pour choisir le successeur d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF. On y reviendra. Pour l'instant, que peut-on répondre à Youssouf sur les objectifs et les missions de cette organisation?
D'abord, il faut comprendre ce que représente la francophonie aujourd'hui. En quelques chiffres, la francophonie, ce sont 274 millions de personnes à travers le monde qui parlent français, environ 4% de la population mondiale. Sur le plan économique, ça représente 16% de la richesse mondiale, du PIB. Et selon les chiffres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à l'horizon 2050, plus de 700 millions de personnes parleront français dans le monde, dont 80% habiteront en Afrique. Alors, quelles sont les missions, les objectifs de la francophonie? Il y a d'abord la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, le soutien à l'éducation, à la formation et à la recherche, le développement de la coopération au service du développement durable. Et puis la francophonie s'efforce aussi de faire de la médiation, de la gestion de conflits, d'envoyer aussi des missions d'observation électorale. Tout ça, c'est une impulsion qu'a donnée Abdou Diouf à l'organisation depuis qu'il en a pris la tête en 2002. Abdou Diouf qui a mené souvent une sorte de diplomatie discrète. On peut ajouter à cela un volet économique à ses objectifs. L'essayiste Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, a remis par exemple au mois d'août dernier un rapport en faveur de la création d'un espace économique francophone intégré, ouais. Une francophonie moteur de croissance durable. C'est vrai que la solidarité économique entre les pays membres de la francophonie figure déjà dans la charte, mais Jacques Attali veut aller en fait lui beaucoup plus loin. Il préconise une sorte d'union politique et économique francophone. Il a fait en ce sens une série de propositions, une cinquantaine environ dans ce sens. Mais sur RFI, hier, il ne cachait pas d'ailleurs sa crainte de voir son rapport rester au fond d'un tiroir. Il n'est donc pas dit que le sommet de Dakar marque le début de ce qu'on pourrait appeler la révolution économique de la francophonie, mais peut-être un premier pas. Hier, sur RFI, François Hollande s'est prononcé, lui, en faveur d'une facilitation des visas pour les entrepreneurs, les étudiants, les chercheurs, et ce, afin, Zéphirin, de favoriser ces échanges et d'amorcer vraisemblablement ce tournant, ce virage économique.
Mais pour toutes ces missions, pour tous ces objectifs, ça coûte combien, en fait? Parce que c'était la deuxième question aussi de Youssouf.
Eh oui, alors, c'est assez flou, mais c'est que le budget annuel de l'OIF se monte à environ 85 millions d'euros par an. La France contribue à hauteur de 25 millions, le Canada un peu moins, mais environ la même chose. En fait, les contributions de chaque État sont calculées, les États membres et les États associés, par exemple, contribuent en fonction de leur richesse nationale. Quant aux États observateurs, eux, ils payent un forfait. Et puis, chaque État peut ensuite faire des contributions volontaires. Tout cela, ce budget sert ensuite au fonctionnement de l'organisation pour environ un quart et surtout donc au financement des programmes de coopération multilatérale. Pour l'information, alors un sommet comme celui-là coûte cher, c'est l'occasion pour un pays comme le Sénégal, puisque Youssouf nous appelle de Dakar, d'accueillir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Donc une ville comme Dakar fait peau neuve, refait ses infrastructures. Par exemple, il y a ce fameux centre de conférence flambant neuf de Diamniadio qui a coûté environ 88 millions d'euros. C'est beaucoup. Il a été financé pour moitié par la Turquie et pour l'autre moitié par les autorités sénégalaises.
Oui. Alors, il y a une autre question qui revient souvent dans tous les mails que nous recevons et que je vais vous poser pour une réponse en une petite minute. Je le disais en ouverture de ce sujet-là, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres sont donc réunis pour choisir le successeur d'Abdou Diouf. Il y a 5 candidats qui sont en lice. On va assister à un bras de fer entre les Africains d'un côté, puisqu'il y a 4 Africains et une Nord-Américaine en la personne de Michaël Jean, la Canadienne. Comment ça se joue en ce moment sur place à Dakar?
Alors, tout va se jouer a priori dans le huis clos de dimanche matin. Il n'y a pas de consensus, on l'a répété. François Hollande, hier encore sur RFI, l'a dit, a adressé une sorte de message à ses homologues africains. Il ne doit pas y avoir de candidats africains et de candidats pas africains. On l'a entendu, si vous avez suivi, il a beaucoup parlé, lui, de Michaël Jean, la Canadienne. Et il n'a pas évoqué d'ailleurs les 4 autres candidats. Pour rappel, Jean-Claude Delestraque, le Maurice, Henri Lopez, le Congolais, Pierre Bouyoya, le Burundais, ou Augustin Nzenfumou, l'Équato-Guinéen. Tout va se jouer vraiment lors de la rencontre à huis clos. Dimanche matin, on devrait avoir la réponse dimanche à la mi-journée. Il n'est pas exclu, Zéphirin d'ailleurs, qu'un sixième nom sorte du chapeau et que coiffe tous les autres au poteau. En tout cas, donc tout cela va être très suivi ici à Dakar dans les heures et les jours qui viennent.
Est-ce qu'on peut dire en une phrase, Pierre, que pour l'heure, la Canadienne Michaël Jean, évoquée hier par François Hollande dans son entretien exclusif sur RFI et TV5 Monde et France 24 est perçue comme une favorite?
Depuis hier soir, en tout cas, on peut lire les propos de François Hollande comme un soutien de la France. Alors, est-ce que cela suffira? Eh bien, on verra dimanche. Est-ce qu'il aura réussi à convaincre ses homologues africains?
C'est à suivre, dimanche. À suivre. Donc, sur nos antennes. Merci infiniment, Pierre, pour cet éclairage. Vous restez à l'écoute. On se retrouve dans 10 minutes après la dernière édition d'Afrique Matin pour la Libre Antenne.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie. Transfert d'argent.